Bonjour à toutes et à tous. Dernier moment d'une semaine qui a donné la parole à des artistes. Ils ont en effet tous en commun, vient de le dire Mathieu, d'être exposés en ce moment au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le MacVal, qui fête ses 10 ans. Aujourd'hui, c'est une carte blanche cinématographique proposée à l'artiste Tadzio, au menu Tati, Marker, Antonioni et Marclay. C'est parti. La question, c'est de savoir ce qui nous affecte, à partir de quel seuil, et ce qui nous met en mouvement. Car dans le mouvement de ce qu'il fait, c'est dans ce mouvement que le corps politique manifeste son exact degré de puissance. « Ce que nous pouvons », c'est le titre du texte de Frédéric Lordon à lire sur le blog du Monde Diplomatique. « Le propre des corps, poursuit-il, c'est que leur degré de puissance ne cesse de varier, selon ce qui affecte différentiellement leur parti. Or, c'est peu dire qu'ici, le corps politique est affecté, du dehors par le meurtre de masse terroriste, et du dedans parce que, supposément en leur nom, sa partie gouvernante inflige à ses partis gouvernés. » Entre autres lectures, Lordon renvoie dans son texte à la série d'images réalisées par Julien Brigaud, le 29 novembre à Paris, dont la très emblématique image de la place de la République sous les lacrymogènes. Il est 16h, passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, ça nous fait donc un peu de lecture avant dimanche. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. En fin d'émission tout à l'heure, la comédienne Liliane Rovert nous raconte sa lecture d'Ulysse de James Joyce. Cela fait partie des 5 moments de bascule qu'elle a identifiés comme autant d'ouverture et de choc dans son parcours. Voilà un livre qui, malgré son endurance de lectrice, la tient éloignée pendant plusieurs années. Elle essaye, elle bute, elle ne comprend pas, elle s'arrête, elle reprend, jusqu'à ce que le texte lui ouvre ses portes et qu'elle s'en trouve plus que récompensée. Récit vers 16h50. L'importance de parler de son travail, la difficulté aussi parfois de parler de son travail, est revenue cette semaine à plusieurs reprises dans les paroles des plutôt jeunes artistes que nous avons reçus. Souvent, le contexte de l'émergence de ces paroles était évoqué. Et quel contexte? L'éventuelle victoire du Front National dans une ou plusieurs régions françaises, les récents attentats perpétrés à Saint-Denis, en région parisienne ou à Paris, l'état d'urgence ou encore la tenue de la conférence pour le climat à Paris. La parole d'artistes et d'étudiants en sciences politiques dans ces contexte de négociations internationales était justement au cœur du projet Make It Work, mené au Théâtre de Nanterre à la fin de la saison dernière. Et à cette occasion, nous avons reçu, entre autres, la jeune cinéaste Anna Vaz. Elle avait observé les négociations fictives se dérouler dans le théâtre et elle observe aujourd'hui les négociations réelles, plutôt inquiètes. On l'a re-rencontrée mercredi dernier, on l'écoute.
Je confesse que pour moi, c'est très étonnant parce que j'ai l'impression que la fiction de la pré-simulation qu'on avait jouée justement à Nanterre est presque plus proche de la réalité que ce que je suis en train de voir à la vraie COP maintenant. Et je vais dire pourquoi. Parce que à Nanterre, il y avait au moins une distance critique par rapport à ce qui était en train d'être joué. C'est-à-dire les moments qu'il y a, je vais dire, les voiles ou la lisière de la fiction, il y a tout de suite une distance critique qui est mise en question. Tout est remis en question. Tandis que ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont en train de faire exactement la même chose, mais sans aucune distance critique. Ce qui m'étonne aussi, c'est la froideur de négociations. C'est qu'on est en train de discuter, on va dire, des issues qui sont chaudes, de manière très froide. Et qui, bien sûr, face à tout qui est en train de se passer à Paris en ce moment, ce que j'appelle la bankérisation, la fermeture de la black box, encore une fois, de la boîte noire des négociations, où en fait, tout se passe à son intérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a que l'intérieur de discussion. Donc, dans ce sens-là, il n'y a même pas la possibilité d'une opposition. J'ai l'impression que les choses sont déjà en train de se fermer de manière tellement souple, de manière tellement accordée, de manière tellement stainless steel, qui en fait ça m'inquiète beaucoup plus parce que justement je pense qu'il y a il y a trop de certitudes, il y a très peu de doutes et en même temps toutes les enjeux politiques qui on peut voir dès loin, si on voit les live transmissions, on voit la chambre où il y a la plupart des pays africains, la chambre est pratiquement vide, la salle des Brésil est à moitié, la salle des pays riches est très très mouvementée. Bien sûr, il y a une je dirais une espèce de ça s'est réjoui. Tous les enjeux des pouvoirs s'est réjoui. Et j'ai l'impression, justement, qu'il s'est réjoui dans un théâtre politique dans lequel il n'y a pas d'extérieur. Il y a plutôt un système qui survole, en réalité. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a déjà un discours très résolu, presque, tandis qu'en fait, on est en perpétuelle résolution. Il n'y a pas de doute dans ces négociations. Il y a un discours très certain de lui-même. Et comme tout discours qui sont très certains de lui-même, pour moi, on est très proche de l'irresponsabilité. Ce que la crise écologique nous mène à faire, je pense que c'est un changement radical des postures plutôt que de trouver des solutions. Moi, j'avais vécu des moments de doute profond des étudiants qui étaient des moments les plus bouleversants de ce théâtre de négociation. C'était justement les moments où les étudiants se rendent compte et se disent « Ah, mais en fait, peu importe ce qu'on va décider parce qu'on doit toujours agir par rapport à des agendas de nos pays qui préexistent. » Et les moments qu'ils se sont dit « Ah non, mais en fait, on est là pour jouer une fiction, donc on peut, justement, changer nos langages, changer nos mots, changer la manière qu'on négocie. Et là, ça pourrait devenir intéressant. » Tandis que dans la vraie COP, c'est un théâtre qui... On a l'impression que ça pourrait se dérouler sans ou avec l'événement. Les choses me semblent très prédéterminées. Donc, il y a cette jeu d'une fiction politique avec un certain protocole, avec une certaine mise en scène, avec de certaines images, de certains dialogues, etc., mais qui, en fait, ramène à très peu de discussions, je dirais, incarnées sur la chose. Et pour moi, ce qui manque en ce moment, c'est justement c'est où la place des civilians, c'est où la place des citoyens, si on ne peut pas manifester, si on ne peut pas être dans les rues, s'il n'y a pas des images même, je dis, dans un sens très médiatique ou presque cinématographique, s'il n'y a pas une contre-image à les images qu'on a données tous les jours pour la COP, comment on peut avoir une vraie discussion sur l'inquiétude des temps qui nous approchent? Il n'y a pas de contre-images. Les images sont trop lisses, les discours sont trop lisses. Et les gens ne sont pas dans la rue parce qu'on n'a pas les droits d'être dans la rue. Donc, c'est très inquiétant, en fait. Look to the right. Look to the right. Let me get a close-up. Let me get a close-up. Look to the right. Look to the right. Let me get a close-up. Let me get a close up. Are you ready? Don't follow patronymic. Splooge, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me livid. Got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait a minute. Who are you looking at when you grew fat? You just blew that. Can't redo that. Diminish the pillage. A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see, it's not coins in my mintage. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. You ready? Zone, different wardrobe, testosterone. Blender, Tinder, Finder, Grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peak of the clone. You're a person alone, with a personal loan. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just a lot of scrimmage. Not real, but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right. Look to the right. Get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. Are you ready? Look, look. Looking real close and you're showing it around like you know me now. Look, look. Humping up the lens, seeing holes and bends. You don't know me now. Look, look. Close to the skin, but I never let you in. I'm a secret cow. Look, look. Put away the gear, come over here. Let me show you how. Blink at me. Blink at me good. Blink at me. Blink at me. Blink at me. Blink at me, good.
Et pour commencer, Anne-Laure Chanel, notre réalisatrice, choisit de vous faire entendre Peaches avec le titre Close Up. Il est 16h11 sur France Culture, c'est le dernier moment d'une semaine qui a entendu le duo artistique des Non-Football Club lundi, Céline Duval mardi, Julien Prévieux mercredi, Agnès Jaufray et Laura Hainaut hier parler de leur travail. Ils ont en commun d'être exposés en ce moment au Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, musée qui fête les 10 ans de son ouverture à l'occasion desquels nous avons proposé à tous ces artistes de poser un regard rétrospectif à la fois sur ce lieu mais aussi sur leur parcours et leur pratique. Ce que nous vous proposons aussi, Tadzio, aujourd'hui, sous la forme d'une carte blanche cinématographique, pour ne pas trop déroger à nos habitudes, vous travaillez le médium photographique autant que la vidéo, l'image donc, et vous avez choisi cet après-midi pour nous quatre extraits de films qui vous ont particulièrement marqué, qui touchent aussi à des réflexions sur le temps, ce à quoi touche évidemment votre travail, en témoigne ce qui est visible en ce moment au Magval, Condensation, dont on va reparler dans un instant. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Puisqu'on prend cette date de 2005, ouverture du Magval à Vitry comme point de départ pour que chacun porte un regard sur son travail, vous en étiez où, vous, en 2005 ?
En 2005, j'étais en train de terminer une série de photographies unscaled à New York et Chicago. Et j'attaquais une nouvelle série sans titre dans le métro parisien et dans d'autres métros du monde sous terre, donc.
Et vous aviez déjà cette grande attention au déroulement du temps, mais aussi peut-être à l'observation de la décomposition du mouvement, c'était déjà très à l'œuvre.
Alors oui, en particulier en fait dans l'idée de... En fait j'ai toujours voulu faire des images qui ne soient pas une captation exacte du réel, mais plutôt des images où j'essaie d'augmenter le réel par, en fait, généralement, l'intégration du temps. Donc j'essaie de faire des images dans lesquelles le temps est inclus. Alors une image est fixe par définition, une photographie, mais un petit peu dans Unscale et puis après surtout dans cette série dans le métro sans titre, de plus en plus j'utilise des temps de pose longs qui permettent d'avoir des mouvements flous et donc avec un background qui lui est net et fixe et figé. Au contraire, les personnages qui vont passer devant l'appareil photo seront flous et plus flous si le temps de pose est plus long.
Voilà. C'est aussi une réflexion qui se poursuit de manière différente encore hein, quand vous choisissez de travailler avec la vidéo. En quoi est-ce que c'est différent justement ?
Alors c'est différent dans le sens où j'essaie de, à l'inverse, de faire des vidéos qui sont assez photographiques. Je commence par surtout des vidéos déjà qui sont muettes, il n'y a aucun son, ni musique, ni parole. Ce ne sont que des plans fixes enchaînés. Et d'ailleurs, la toute première vidéo que j'ai faite, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, ce n'est qu'un plan fixe muet. Voilà, avec un personnage qui passe et qui lui-même est flou. Mmh. Enfin, qui a un flou de mouvement, disons en tout cas.
Et qui du coup joue aussi, il me semble, sur des photographies qui seraient en mouvement. Enfin, on a vraiment, c'est comme si presque c'était une démonstration de ce qu'est le cinéma ou ce qu'est l'image animée, à savoir plein de photographies mises bout à bout dans
oui,
un temps donné.
Oui, tout à fait. Alors, sauf que, oui, et en même temps, le fait de comme ça d'avoir ce temps de pose long me permet de donner une idée de temps et une notion de temps dans une image fixe. Donc, comme si je pouvais regrouper en fait une histoire ou un instant complet dans une seule image.
Ce que vous faites avec Condensation, hein, puisque je le disais en introduction, c'est ce qui est proposé aux visiteurs du Magval dans l'exposition L'effet Vertigo à Vitry-sur-Seine. Quel est le principe de cette proposition Condensation ?
Alors le principe, donc, c'est une série de 80 diapositives, et chaque diapositive correspond à l'accumulation de tous les photogrammes d'un film de cinéma. Et donc, en fait, initialement, je voulais justement photographier des extraits de films. J'avais commencé ça, je crois, en 2011. J'avais commencé à projeter à l'atelier des images au mur. Et puis, en faisant des temps de pose longs, l'idée de pouvoir justement capter toute une scène en une seule image. Et puis, de fil en aiguille, ça me convenait pas complètement. Et j'ai rallongé les temps de pose, j'ai rallongé les scènes. J'ai commencé à intégrer plusieurs scènes. Et puis, petit à petit, je me suis dit, non mais en fait, il faut que je réussisse à mettre tout le film dans une seule image. Et donc, je voulais pas non plus que ce soit tout blanc, que ça ressemble par exemple aux images de Sugimoto dans les théâtres. Et donc, j'ai finalement décortiqué les films image par image, et après, sur ordinateur, je les ai superposés petit à petit, selon un certain algorithme qui n'est pas très intéressant en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est le même pour tous les films. Et on obtient un résultat qui est ce qu'il est, que je ne maîtrise pas complètement. Et d'ailleurs, le premier film que j'ai fait, c'était Playtime. Et donc, j'ai obtenu ce résultat assez brumeux, comme un petit peu de la condensation sur une vitre. Et donc, c'est cette idée de condenser tout un film en une seule image, de concentrer tout le temps d'un film en une seule image, donc qui elle n'a pas de temps, et d'obtenir quelque chose d'un peu brumeux qui peut rappeler éventuellement la peinture.
Playtime de Tati.
Good morning. Oh, Mr. Morgan. You have got the line. Thank you. Mr. Sloan. Yes. Is there any? Yes. Could you hold him, please? Bessie Mac? Oh, how are you? Yes, I did. Mr. George is on 209.
La comptabilité, s'il vous plaît, pour Monsieur Lac.
Un moment. Vous avez la ligne.
Allô? Accounting Department?
Tadio, c'est le premier extrait sonore de cette carte blanche cinématographique. Vous choisissez d'évoquer le film Playtime de Tati. Alors, on l'a dit, ça fait partie de ces photogrammes, de ces diapositives où vous avez condensé l'ensemble des images contenues dans un film. Est-ce que ça signe aussi votre grand intérêt pour ce film de Jacques Tati?
Oui, enfin, je trouve que c'est un film, c'est vraiment un film monument pour moi. C'est aussi un film. Il y a une immense rigueur de Jacques Tati. D'ailleurs, c'est un film qui l'a ruiné. Il est tourné en 70 mm. Comme il avait plus d'argent, il y a des silhouettes en carton pour remplacer les figurants. Enfin, mais chaque détail est hyper calculé. Et même ce détail, à un moment dans le bus, d'une dame qui a un bouquet de muguet qui ressemble aux réverbères qui sont à l'extérieur du bus. Enfin, tout est parfait. La couleur est très belle. On est à la limite du noir et blanc, mais non, il y a un petit bleu avec tout le métal et le vert qui est dans l'architecture. Et j'ai choisi cette scène un peu plus particulièrement parce qu'on y voit donc Monsieur Hulot qui a un rendez-vous qu'il n'arrive pas à obtenir. Et finalement, il se met à se promener dans ce bâtiment. Il se retrouve sur une mezzanine et puis il plonge avec un escalator dans un environnement de bureaux où chaque bureau est identique. Et c'est comme s'il replongeait à nouveau dans une ville. En fait, il vient d'une ville et il retombe dans une ville comme un peu une mise en abîme de la ville dans la ville. Et à nouveau, il est perdu, il cherche son interlocuteur, il le trouve pas. Il sait pas très bien où il va, en fait, il est un peu perdu. Et il y a cette dame qui est un petit peu comme ça, master of ceremony au milieu, qui scande des phrases, et un peu comme un policier. Et on retrouve évidemment aussi l'humour de Jacques Tati avec ces deux personnages qui parlent en anglais, en français, d'un bureau à l'autre, alors qu'ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Voilà. Et lui, donc, il erre entre ces bâtiments, entre guillemets, que sont les bureaux. Et puis, il passe du premier plan, et puis petit à petit, il s'éloigne, et puis finalement, il se retrouve complètement au fond de la scène, on le voit même plus. Et puis, peut-être, il part ailleurs, et il regarde à l'extérieur, et pendant un assez long moment de cette scène, il est plus du tout avec nous, en fait. Voilà, il est un peu perdu dans cette ville, et tout le rythme de la scène est très chorégraphié, c'est un peu comme une chorégraphie. Voilà, et je pense que je retrouve un certain intérêt, et je m'y retrouve un peu dans ce film et dans cette scène, oui.
Et notamment dans le déplacement de ces différentes silhouettes et le rôle que jouent aussi les silhouettes dans vos propositions vidéo, où elles signent du temps, encore une fois, finalement. Mm-hmm.
Tout à fait, et donc... Oui, alors il y a ces silhouettes en carton, et puis il y a surtout ces passants qui passent et repassent, et donc effectivement, dans la... première vidéo que j'avais fait en 2007, qui dure 30 secondes, c'est juste un plan fixe, justement avec une ville, un bâtiment un petit peu peut-être, je pense, de la même époque que Playtime, et un décor très simple, un arbre est planté, il y a une espèce de borne électrique plutôt bien dessinée, et on est, la scène est vide, le personnage finalement arrive, il se déplace tout en étant flou, et puis il quitte la scène et il est hors champ. Et voilà, et donc pour moi c'est une photographie, enfin c'est pas vraiment un film en fait, c'est plutôt une photographie qui intègre du temps.
Playtime de Jacques Tati sort en 1967, vous n'êtes pas vraiment né en 1967.
Pas tout à fait.
Quand est-ce que vous le découvrez, ce film-là? À quelle occasion?
Je le découvre quand je suis adolescent et que je vais pas mal au cinéma et que et j'ai d'abord vu Les Vacances de Monsieur Hulot, puis je découvre celui-ci, puis je découvre Mon Oncle et celui-ci. Ensuite, quand je pars visiter des très grandes villes en Asie, je fais tout de suite une corrélation, voilà, entre cette espèce de ville parfaite, très bien organisée. Et ces immenses buildings, au contraire, plutôt désorganisés dans ces grandes villes asiatiques.
C'est par exemple, vous faites référence à une vidéo où vous filmez des flots dans la ville de Tokyo. Quels pourraient être des espèces d'effets de miroir entre le film de Jacques Tati et votre propre travail sur cette grande mégalopole?
Alors, je parlerai plutôt de deux autres vidéos qui sont tournées à Kuala Lumpur et à Bangkok, enfin qui sont antérieures à celle de Tokyo, où là je filme vraiment la ville et j'essaie de filmer les strates de la ville. Donc ça s'appelle Kuala Lumpur Layers et Bangkok Layers en 2008 et 2009. Et là je m'intéresse justement à une sorte de chorégraphie de la ville, de tous les mouvements de la ville. Donc la ville, elle, est plantée, est fixe, est figée, et on passe de plan en plan, de plan fixe en plan fixe. Et là dedans s'animent en fait des piétons, des voitures, des bus, et puis la végétation aussi qui bouge dans tout ça. Voilà, et c'est des films en fait qui sont muets et dans lesquels j'ai voulu enlever le son. C'est des villes très bruyantes, assez fatigantes. J'ai voulu enlever évidemment l'odeur, la pollution, pour en faire quelque chose de plutôt onirique finalement. Et toujours cette idée de temps qui passe avec toujours ces mouvements flous.
direction de Rome. Vol Alitalia 333.
À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après, vint la destruction de Paris.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richu.
Taddeo, c'est le deuxième extrait de cette carte blanche cinématographique. Vous nous faites écouter La Jetée de Chris Marker. C'est un film qui date de 1962. Pourquoi ce choix ?
Alors en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce film, bon, évidemment, il est très connu et voilà. Mais c'est, enfin, d'ailleurs, Chris Marker dit que c'est un photoroman. Il ne dit pas vraiment que c'est un film. Et donc c'est pas vraiment un film, c'est pas vraiment un documentaire, c'est peut-être pas tout à fait un film d'art non plus, c'est un photoroman, bon.
On peut juste rappeler, parce qu'il a beau être très connu, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu, le principe de construction de ce film-là.
Ouais, enfin c'est ça qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est qu'en fait il n'est construit qu'à partir de photos. En fait ce ne sont pas tout à fait des photos, c'est qu'en fait il a pris des photos et après il a filmé les photos. Et donc c'est ça que je trouve très intéressant, en fait, c'est juste en termes de temps, c'est qu'en fait c'est construit en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, il construit une histoire, une sorte de chemin de fer ou synopsis comme ça avec des photographies. Et après, il va aller filmer les photographies. Alors il y a une exception, il y a quand même une scène en mouvement dans le film, un battement de paupières. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, ce ne sont que des photos filmées. Et donc il réussit, en enchaînant rapidement des photographies, à donner l'idée d'un mouvement filmique. Et donc à raconter une histoire qu'à partir de photographies. Et même dans cette scène qu'on a entendue, il y a un moment où les images sont toutes noires. Donc le film continue sans images. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport à mon travail. Et en fait finalement le lien... Enfin, ce qui permet de lier l'image, c'est le son. Et donc la bande son est très importante avec cette voix et qui raconte l'histoire par-dessus. Et donc l'ensemble donne vraiment comme un film de cinéma. On pourrait presque oublier qu'il s'agit de plans fixes, si on peut dire.
Et pour autant, vous semblez être assez intéressé par justement ce rôle du son et puis ce texte qui dit, qui fait le lien ou le lien entre les images. Vous enlevez, vous le disiez tout à l'heure, il vous arrive souvent d'enlever le son. Alors, il vous arrive aussi de mettre de la musique, mais dans votre travail, en tout cas, c'est possible de faire face à des projets muets. Qu'est-ce que vous faites en ne mettant pas de son ?
En ne mettant pas de son, je pense que je me rapproche de la photographie, justement. Disons que j'ai commencé à faire des vidéos en me disant non, il faut pas que ce soit des vidéos, il faut que ce soit des ciné-photographies, en fait. J'essaie d'appeler ça comme ça. Parce que après, petit à petit, je me suis mis j'ai demandé à quelqu'un de créer une musique pour les films. Mais si on revient juste sur la jetée, en fait, à un moment, il dit... dans l'histoire, il faut faire un trou dans le temps pour y faire passer des vivres. Donc en fait, cette idée de temps, elle est hyper, hyper importante. Et donc projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Voilà, donc en fait, il réussit à mélanger le présent, l'avenir et le passé dans un même instant, en fait. Et donc il y a une sorte de, comme ça, je trouve, de vertige du temps, puisqu'il réussit à enchaîner comme des sortes d'instants qui dureraient.
Ce qui est aussi très présent, ce vertige du temps dans Condensation, votre proposition où en effet des films et toutes les images sont comme aplaties plastiquement, où le vertige du temps nous est presque donné à voir dans des images, vous le disiez, embuées par exemple, pour prendre ce que donne la Condensation de Playtime de Tati. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de regarder une mémoire cinématographique, une mémoire artistique qui vous sous-tendrait?
En fait, cet effet vertigo, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois reculer pour voir l'ensemble, si on reprend vraiment l'effet vertigo de Hitchcock, et en même temps zoomer pour comprendre les détails. Et ce que j'essaie de faire dans Condensation, c'est de faire justement les deux à la fois, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble du film, donc le film dans son ensemble, et également avoir tous les détails, puisqu'on a toutes les images du film. Voilà, donc c'est vraiment ça le lien, je pense, entre Condensation et cette exposition à laquelle Alexia Fabre m'a convié. Et elle parle elle-même d'ailleurs d'une abstraction née de la narration. Enfin voilà, on prend toute une histoire et on la rend abstraite. Et finalement, est-ce qu'elle est abstraite, puisque l'image, le résultat est abstrait, ou bien est-ce qu'au contraire, elle est très concrète, puisqu'on a toute l'histoire qui est dedans?
Est-ce que vous, parce qu'en même temps, vous ne choisissez pas n'importe quel film à condenser, vous en proposez 80, on en a la liste ici. Est-ce que ma question était de savoir si c'était aussi votre propre regard sur une histoire du cinéma et de la représentation qui sous-tendrait éventuellement votre propre travail ou votre intérêt pour le cinéma?
Ok. Alors, en fait, le choix des films, c'est un travail de mémoire.
Ce qui nous rapproche aussi de la jetée.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Et en fait, j'ai essayé d'être le plus honnête avec moi-même et de réfléchir, de me dire voilà, quels films m'ont vraiment marqué plus jeune. Donc c'est plutôt des films que j'ai vus il y a longtemps dans l'ensemble. Le plus récent, je crois que c'est 2001, c'est War Photographer de mémoire, le dernier de la liste.
Le dernier de la liste, c'est War Photographer.
Par ordre alphabétique, voilà. Ouais. Et oui, c'est essayer de replonger dans ma mémoire et puis de me créer une sorte d'archive personnelle du cinéma. Alors c'est très personnel parce que c'est pas du tout une anthologie du cinéma. Il manque plein de très grands films. Mais bon, tant pis, soyons honnêtes, il y a beaucoup, je pense, de chefs-d'œuvre dans cette liste. Il y a aussi peut-être quelques films moins exceptionnels dans l'histoire du cinéma, mais voilà, qui sont des films que j'ai mémorisés pour une raison ou pour une autre. Et qui font partie de cette liste de 80 films.
Ils vous sont arrivés facilement, ces films-là?
Pour certains, c'était assez évident, notamment Playtime ou La Jetée. Pour d'autres, ça a été compliqué, puis il a fallu faire des choix, parce qu'en fait, 80, ça paraît beaucoup, mais c'est assez peu. Je pense qu'on voit tous beaucoup de films, beaucoup d'images. Et en fait, c'est aussi l'idée qu'on est comme ça tellement submergé d'images tout le temps, toute la journée, avec les réseaux sociaux, les mails, tout ça, que c'est un peu dans cette idée-là de se dire bon ben voilà, j'ai pas le temps de regarder tel film, alors hop, je vais le condenser et il est là, je l'ai avec moi et je propose au spectateur de le regarder une seconde ou une heure.
Vous disiez tout à l'heure que vous ne maîtrisiez pas évidemment l'image que vous obtenez après avoir condensé ces 80 films. Est-ce qu'il y a des images qui vous ont vraiment surpris et où vous vous êtes dit c'est bien étrange que ce film soit condensé dans cette image-là?
Alors quelquefois on reconnaît soit quelques intertitres qui sont restés. En fait, il y en a un qui est un petit peu différent. Bizarrement, c'est le film C'est arrivé près de chez vous, où en fait la scène de fin est très longue et le film est pas très long et du coup elle s'est pas mal imprimée dans l'image résultat. Et c'est peut-être un des seuls où on aperçoit une forme de bâtiment ou d'architecture. Ça se passe dans une pièce. Et voilà. Donc là, j'étais un peu étonné. Non, sinon, il y en a un deuxième, je suis en train de penser, c'est Bagdad Café, qui est l'image la plus colorée de toute la série, c'est tout jaune. Et en fait, j'ai re-regardé le film, j'ai pas trop re-regardé les films, mais celui-là, j'ai re-regardé. Et en fait, l'image est ultra colorée, ultra jaune. Et voilà, donc c'est peut-être les deux ovnis un peu peut-être dans la liste.
Et sinon, comment est-ce que vous regardez ces 80, enfin, ou alors ces 78 autres images une fois qu'elles sont faites et si vous vous éloignez un petit peu de la condensation dont elles sont nées, vous pouvez les regarder comme telles, comme des images plastiques?
Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je cherche dans mon travail, je crois, c'est toujours d'être un peu à cheval entre deux médiums, ou entre plusieurs médiums. Donc j'ai fait beaucoup de photographies imprimées sur de la toile qui donne un peu l'idée de la peinture. Et de la même manière, ce projet condensation, lui, il est seulement projeté, il est jamais imprimé. Mais c'est aussi une manière peut-être de regarder la peinture. J'ai beaucoup grandi avec la peinture abstraite.
On pense forcément à ça, hein, devant ces diapositives, parce qu'elles nous renvoient à de la couleur, elles nous renvoient à des choses qui s'éloignent de la représentation, de la figuration, et on est reprojeté dans un autre espace que celui du cinéma, quand même.
Oui, tout à fait, oui. Et ça peut peut-être évoquer Monet quelquefois, sur certaines images ou quoi. Je pense que ça fait longtemps que je voulais faire un projet. Comme je disais, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2011. Les processus sont souvent assez longs. Ce qui m'intéressait, c'est d'apporter du temps à l'image dans le processus de travail. C'est-à-dire qu'en fait, le processus en lui-même est très très long. J'ai mis 2 ans à faire ce projet. Pas tous les jours, mais pas loin. Et donc voilà, je crée des peintures, si on peut dire, lumineuses, parce qu'elles ne sont que projetées, en intégrant du temps au travers du processus de construction de l'image.
Piazza Tiananmen a Pechino in un giorno di maggio. Abbiamo cominciato il nostro breve viaggio nella Cina d'oggi puntando qui le nostre macchine da presa. La canzone che avete appena ascoltato dice «Amo la piazza Tiananmen». La cantano i bambini in tutte le scuole della Cina. Per i cinesi questo grande spazio silenzioso è il centro del mondo. La porta della pace celeste è il cuore di Pechino. E Pechino è il centro politico e rivoluzionario della Cina. E la Cina è il Chung Kuo, il paese di centro, il nocciolo antico della civiltà del mondo. È la piazza delle parate, dei discorsi, dei cortei. La Repubblica Popolare è stata proclamata qui. E qui sono passate le ondate delle Guardie Rosse in marcia per la rivoluzione culturale. Ma noi abbiamo preferito venirci in un giorno qualunque, quando i cinesi vengono qui a fare la coda per farsi fotografare.
Tadio, c'est le troisième film de cette carte blanche cinématographique et vous choisissez cette fois de nous faire entendre un film de Michelangelo Antonioni. C'est un film qui est sorti en France en 1973, qui a été très longtemps interdit en Chine. Et c'est précisément de la Chine dont il est question, Chung Kuo, la Chine d'Antonioni. Pourquoi ce troisième choix?
Alors en fait, c'est peut-être un film un peu moins connu d'Antonioni. Je l'ai découvert au moment où j'étais en train de monter un film sur un voyage en Chine, justement. Donc, je l'ai découvert très tard. La scène qu'on a entendue, c'est le début du film. Ça se passe place Tiananmen, donc en 72. Antonioni la Chine demande à la RAI de faire un docu sur la Chine.
La RAI, c'est donc la radio et la télévision italienne.
Ouais. Et donc, la RAI demande à Antonioni, qui accepte, d'aller tourner là-bas. Et en fait, il se retrouve dans un voyage ultra organisé où il va pas du tout là où il veut, où tout a été prévu pour lui, les scènes ont été prévues, et donc il est pas libre de ses mouvements. Et au final, il arrive à faire un film d'une très grande liberté, où justement, par exemple, la scène d'Allemagne, il va pas filmer le portrait de Mao comme attendait le gouvernement chinois, mais au contraire, il va tourner la caméra de l'autre côté, il va regarder la place, il va en plan fixe regarder la vie des Chinois. Donc c'est pas, le film s'appelle La Chine, et finalement c'est pas tellement un film sur la Chine, mais plutôt sur les Chinois, comme il le dit lui-même, je crois. Et donc les Chinois deviennent les acteurs de ce film, et ils filment les visages, les gestes, les habitudes, alors pas mal au téléobjectif, parce que ça doit pas être évident d'approcher les gens là-bas, puis peut-être qu'on lui en laisse pas la possibilité. Et c'est très esthétique, et puis toujours les paysages d'Antonioni, comme il sait les filmer. Et donc voilà, donc moi je suis en train de monter un film qui s'appelle du coup La Chine, que j'ai fait suite à un voyage en 2010 où j'ai traversé toute la Chine en bus d'ouest en est, donc de Urumqi à l'ouest jusqu'à Shanghai à l'est pendant un mois. Voilà, et en fait j'étais dans un bus avec d'autres gens et en fait un mois pour visiter la Chine c'est hyper court. Et donc en fait je me retrouve également un peu dans une espèce d'itinéraire comme ça coincé à filmer ce que je peux et finalement je filme presque que depuis le bus, depuis la vitre du bus. Puisque c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Il y a quelques arrêts de temps en temps. Du coup, on peut apercevoir des petites scénettes, mais qui sont très courtes, de 10 secondes. Et c'est un film, finalement, un peu tunnel, comme ça, sur l'absurdité d'un voyage à travers lequel on n'arrive pas bien à capter ni les éléments d'un pays, ni une culture, ni ce qui se passe. Pas grand-chose, en fait.
Ce qui fait presque référence, en tout cas moi, quand je vous écoute, me fait penser à un autre film qui est beaucoup plus court, qui s'appelle L'effet périphérique, où vous proposez une sorte de plongée en apnée dans le périphérique parisien, avec aussi cette idée de l'impression de ne pas pouvoir exactement réaliser ce qu'on traverse, ce dans quoi on est, mais simplement de suffoquer. Est-ce qu'il y aurait une sorte de passage entre l'un et l'autre ?
Oui, alors autant le film La Chine, c'est une ligne droite, horizontale, autant le syndrome du périphérique, je l'ai appelé, ça tourne en rond. Et voilà, et en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose par rapport au périphérique parisien, parce que je suis parisien et que je trouve que c'est un élément très fort dans la vie d'un parisien. Le périphérique, c'est cette espèce de ceinture ou de saignée, en fait, entre Paris et sa banlieue. Et je le traverse tous les jours parce que mon atelier est en banlieue. Et voilà. Et finalement, en 2012, je fais des tours de périphérique en voiture. Beaucoup de tours de périphérique avec ma caméra fixée sur la voiture. J'essaie de rendre compte de cet élément, de cet objet. Pour moi, c'est vraiment un objet, le périphérique, qui est en train de disparaître parce qu'il est couvert de plus en plus. C'est plutôt, alors ça, c'est donc on tourne en rond, c'est plutôt une sorte de respiration. Peut-être une apnée. De temps en temps, on ressort d'un tunnel, donc on respire, on est sur un pont, par exemple, et puis on replonge dans ces tunnels où la lumière est orange, et on manque d'air, et puis on ressort. Et je trouve que c'est un peu ça, le périphérique. Et tout le mouvement, à chaque fois, est très flou, donc toujours dans cette idée d'intégrer du temps dans le temps. Donc dans la vidéo, alors là, cette fois, il y a de la musique créé par Thomas Fernier. Et donc la musique, je pense, appuie sur le côté un petit peu inquiétant et un petit peu apné de l'image.
Vous disiez tout à l'heure que vous mettiez en relation votre propre travail sur la Chine et ce film d'Antonioni. Est-ce que lorsque vous commencez un travail, vous vous tournez vers des films qui peuvent, dans l'histoire du cinéma, avoir trait à la même chose ?
Non, pas forcément. Mais en fait, c'est plutôt après coup que je me rends compte, tiens, peut-être que ce film que j'ai vu il y a 10 ans ou il y a 1 an, finalement, il a un rapport avec le film que j'ai voulu faire et c'est peut-être pas anodin. Mais c'est pas forcément voulu.
Hundreds of small craft, led by 6 fire tugs making fountains of water, formed an escort flotilla. And 4 Wasp helicopters flew past in salute. In the city, the Financial Times ordinary share index was down 10 points an hour ago at 529.8. BBC Radio News.
My God, we made it. Well done, Charles. Knew you wouldn't let me down. God, that was close.
Tadio, c'est le dernier extrait de cette carte blanche cinématographique et c'est une installation vidéo, une installation qui s'appelle The Clock, qui est réalisée par Christian Marclay. Ça a été créé en 2010. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, The Clock est un film qui dure 24 heures et qui n'est composé que d'extraits de films de cinéma mis bout à bout, montés ensemble. Et dans tous les extraits, on a accès à l'heure. Et en fait, si vous êtes en train de le regarder et qu'il est 15h15 à votre montre, eh ben il est 15h15 à l'écran. Et donc Christian Marclay, qui a beaucoup aussi travaillé avec la musique et le son, réussit, je crois, après 3 ans de travail avec une bonne équipe, à extraire du cinéma, de l'histoire du cinéma, que des extraits où on voit l'heure. Et donc on entend d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé le tic-tac d'une montre, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et ce qui est très puissant, je crois, dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune histoire et que pour autant, c'est palpitant. On peut en regarder plusieurs heures avec passion parce que grâce à un montage, je pense, subtil, notamment avec le son, il arrive à faire en sorte que le temps est la narration du film. Donc l'histoire, c'est le temps et ça se déroule et ça pourrait tourner en boucle puisque ça dure 24 heures. Et donc je l'ai découvert à Venise en 2011. Je l'ai revu après, pendant la Nuit Blanche, en 2012, il était projeté à Chaillot, je crois.
À Paris.
Et en fait, en 2012, je participais à la Nuit Blanche avec la vidéo « Le syndrome du périphérique » qui était projeté non pas au périphérique, mais au contraire au cœur de Paris, pas loin du Louvre, sur les voies sur berge. Et puis, je sais pas, vers 3h du matin, il y avait moins de monde et il pleuvait, donc je suis allé faire une pause « The Clock » à Chaillot. Voilà, et je trouve que c'est un film exceptionnel.
Est-ce que c'est un film que l'on regarde angoissé ou tenu en haleine par ce passage du temps ou au contraire que l'on regarde, je sais pas comment dire, est-ce que c'est agréable de voir se dérouler le temps devant nous dans l'histoire du cinéma ?
Oui, parce qu'en fait on est pris par l'histoire quand même. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a malgré tout une histoire qui se crée et on écoute. Et finalement, sans que l'image soit abstraite, c'est peut-être la narration qui elle est abstraite. Et voilà. Et c'est un film que j'aimerais un jour réussir à voir en entier. Voilà, prendre des sandwichs et le regarder en entier pendant 24 heures et peut-être faire un projet par rapport à ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose de la performance, en fait, à réussir à faire ça.
En tant que spectateur aussi, vous le vivriez comme une performance?
Oui, oui, je pense qu'on pourrait faire une performance à vouloir le regarder en entier.
Quand vous indiquiez évidemment que c'était une succession d'extraits de films qui préexistent dans l'histoire du cinéma où sont ponctionnées des images où on voit l'heure, est-ce que vous le regardez aussi comme une sorte de panorama de représentations diverses et variées du monde et du temps qui passe ?
Du temps qui passe et donc du monde, probablement, oui. Je ne sais pas exactement combien de films il a utilisé, mais on pourrait dire que ça retrace un peu l'histoire du cinéma. Et en ça, oui, ça l'est, je pense.
Vous écoutez Les Nouvelles Vagues sur France Culture. Il est 16h48, partant du principe que ces nouvelles vagues, quelles qu'elles soient, ont pour point de départ des intensités, des expériences marquantes, des émotions. Nous demandons à une personne d'identifier 5 souvenirs de la sorte et de nous les raconter toute une semaine. Et aujourd'hui encore, c'est la comédienne Liliane Rover qui se prête à ce jeu généreux. Comme beaucoup de lecteurs, elle bute longtemps sur le texte Ulysse de James Joyce, jusqu'au jour où le texte récompense ses efforts et lui ouvre ses portes, elle nous raconte.
Alors moi je connaissais Ulysse de réputation, James Joyce de réputation, je n'en savais rien de plus. Et je m'étais attaquée à Ulysse, à la lecture d'Ulysse, et j'avais, comme beaucoup de gens, buté. C'est-à-dire que j'avançais, je lisais une trentaine de pages, je ne savais pas de quoi il retournait, je ne comprenais pas comment il écrivait, et j'arrêtais. Et puis j'ai persisté une fois de plus, et non pas une fois de trop. J'ai avancé, et là j'ai eu là aussi un choc. Ça m'a tellement impressionné. J'ai compris un petit peu, je crois, pourquoi je butais au début et pourquoi on bute. C'est parce que il a une écriture qui ne fait pas la séparation, la césure entre ce qui est pensé, entre ce qui est dit, avec une ponctuation presque inexistante. Entre ce qui est pensé, ce qui est dit par l'un ou par l'autre, je veux dire que c'est à vous de démêler. Donc c'est très difficile d'y comprendre quelque chose, mais en cours de route, on comprend ce qui se passe, et ensuite l'écriture change. Elle change de forme, à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'est tellement étonnant, c'est tellement riche, on se demande est-ce qu'il écrivait sous acide ou quoi, je sais pas. Bon, je sais qu'il buvait beaucoup, mais enfin bon. Enfin, c'est, j'ai jamais rien bu de tel. J'ai lu beaucoup, parce qu'il n'y a pas que le cinéma que j'aime et la musique. Je suis une très 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 grosse lectrice depuis toute petite, depuis que je sais lire. Je lis beaucoup, beaucoup. Et Joyce m'a... Oh, il m'a assassiné.
Vous avez dit que vous aviez un buté, comme beaucoup, sur ce texte, et puis ensuite que la porte s'était ouverte. Quand la porte du texte s'est ouverte, vous l'avez lu vite ou vous avez lu petit à petit ce texte qui est conséquent?
Ben non, à partir du moment où, comme vous dites, la porte s'est ouverte, ça n'a pas été une révélation. Les choses avancent insensiblement, on ne fait pas des bonds. Mais je ne l'ai plus quitté. Je suis allée au bout et je vais recommencer d'ailleurs.
Ah oui?
Oh oui. Il faut que je revoie ça une fois au moins. De toute façon, j'aime bien les lectures qui m'ont beaucoup intéressée. Je les reprends. Il peut se passer 10 ans avant que je ne relise Dostoïevski ou Stendhal ou quelqu'un d'autre.
Généralement, vous y retrouvez l'émotion intacte ou une émotion changée?
Je ne retrouve pas d'émotion changée. J'ai pénètre un petit peu plus les strates. La lecture est plus riche. Un peu à chaque fois, c'est normal.
Ce que vous disiez de la musique les jours passés sur une oreille qui petit à petit s'affine avec le temps, c'est pareil pour la lecture?
Bien écoutez, avec les années, vous, même comme moi, vous apprenez, vous avez des expériences, vous évoluez, vous vous enrichissez, vous connaissez plus de choses. Donc vous voyez, il n'y a pas que des désavantages à vieillir.
J'ai rêvé que je m'arrachais les cheveux de la tête partout, comme les poils d'un fond d'artichaut. C'est le titre de ce morceau de Chevaux légers, qui est le nom d'artiste pour ce projet de Thomas Fernier. Tadio, c'est vous qui avez choisi de terminer l'émission avec ça. J'imagine aussi pour évoquer votre collaboration avec ce musicien. Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. En fait, donc j'ai rencontré Thomas Fernier à travers sa musique. Et donc, du coup, je l'ai appelé pour travailler avec lui. Je lui ai demandé des musiques pour trois films, trois vidéos. Voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup. Je trouve que c'est une musique qui n'arrête jamais de terminer. C'est ça qui me plaît. C'est souvent des longs morceaux, c'est très cinématographique et il y a beaucoup de strates, un petit peu comme dans mes vidéos, je crois.
Ça n'arrête jamais de terminer, c'est-à-dire que vous voyez toujours poindre la fin et finalement cette fin se dédire et recommencer.
Voilà, et donc je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport aussi avec, je crois, avec les vidéos que je fais, où c'est toujours un enchaînement comme ça de plans fixes.
Et alors comment est-ce que vous travaillez? Vous lui donnez de la musique, vous lui donnez une vidéo, pardon, et puis il revient avec de la musique?
Exactement, oui. Ouais. Je le laisse très libre, enfin voilà, moi la musique c'est pas mon métier. Je crée des images et je lui fournis et il me renvoie une musique et bon, je peux faire quelques petites remarques, mais globalement je respecte ce qu'il a choisi et donc c'est un travail de collaboration et c'est à quatre mains, quoi.
Vous le respectez parce que vous vous dites de toute façon c'est un regard sur mes propres images, alors ça a lieu d'exister et ça m'intéresse, ou parce que c'est un regard qui vraiment rencontre le vôtre d'une certaine manière, ou...
Bah, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que moi je m'y retrouve beaucoup dans la plupart de ces morceaux, donc je suis très confiant dans ce qu'il va faire, et puis je me dis aussi c'est un regard, enfin je sais pas si on peut dire un regard sonore.
On peut le dire.
Oui, ok. Sur mes images qui elles sont visuelles.
On peut parler de regard sonore, Tadio, c'est à peu près ce qu'on essaye de faire chaque jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'une part pour nous faire écouter ces extraits de films et puis pour parler évidemment plus ou moins en creux de votre travail, travail qu'on peut voir à travers la proposition Condensation dans l'exposition Effet Vertigo au Macval, au musée Macval à Vitry-sur-Seine. Et puis on peut signaler aussi une exposition à venir, ça aura lieu à la Maison Européenne de la Photographie à Paris et puis ce sera en avril, du 6 avril au 5 juin. Et puis si on regarde aussi dans l'avenir, comme ça en attendant de lui trouver un titre, votre livre de photographie paraîtra aux éditions du Regard. Et qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? C'est tout, hein?
Merci beaucoup.
Un joyeux anniversaire au Macval et merci à vous. Il va être 17h sur France Culture et il sera tout à fait possible dans quelques instants de réécouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée sur le site franceculture.fr à la rubrique des nouvelles vagues. Sur franceculture.fr, vous pourrez aussi vous abonner au podcast de l'émission et donner ce podcast tout autour de vous. Ça nous fait très plaisir. On peut se parler, franceculture.fr, Twitter et Facebook. Merci à Romain de Bac de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Anne-Laure Chanel réalise l'émission aujourd'hui. Aux manettes, Élise Le, et au droit d'auteur, Victor Button. Dans un instant, le 5 à 7.